Bonjour à tous. Du 10 novembre au 10 décembre, nous menons avec 18 partenaires européens une opération inédite. Une opération qui s'appelle OZ, Our Sustainable Europe.
Je vous présente Ambroise Méjean. C'est un jeune avec Macron, un vrai cadre du mouvement. À en croire son Twitter, il siège même au bureau exécutif d'En Marche, donc c'est un vrai petit prodige du macronisme. Il va nous expliquer son initiative.
Notre objectif, recueillir l'avis de dizaines de milliers de jeunes européens sur l'avenir du climat.
L'avenir du climat, les jeunes, le côté participatif, l'initiative européenne avec un nom en anglais, on dirait en effet du macronisme de 2017. Ça fait rêver. On serait presque nostalgique, tiens. Pourtant, cette vidéo, elle date d'hier, dimanche 22 novembre 2020. Et le décalage avec la pratique du pouvoir macronien est flagrant. Depuis 2017, les petits bourgeois polis et bien peignés comme Ambroise ont laissé la place à Castex, Le Maire, Darmanin ou Blanquer. C'est fini de faire semblant. On a fini de croire au renouveau générationnel, à la Startup Nation, à un pouvoir plus ouvert à la société civile, aux initiatives participatives et aux ni de droite ni de gauche. Alors Ambroise a peut-être pas eu le mémo, mais nous on voit tous qu'En Marche, c'était mieux avant.
Des centaines de tweets pendant toute la soirée. Il faudra que leur champion hausse la voix pour leur faire lâcher le téléphone.
C'était mieux quand la bourgeoisie faisait semblant d'être jeune et cool. Même moi je le regrette le Macron de 2017. Allez Ambroise, pars pendant qu'il en est encore temps, pars pendant que tu peux encore sauver ton âme.
Bon bah on est pas mal là sous Macron. On croyait que ça allait être la Startup Nation progressiste et on se retrouve avec les bourgeois qui ont complètement viré facho.
Ah bah très bien, t'as casé tous les mots directs. Bourgeois, facho. T'es vraiment devenu une caricature de toi-même, hein. Moi je préférais quand tu faisais les vidéos sur les comédies musicales du jeu vidéo là, avec le petit gros.
Non mais c'est pas moi la caricature là.
La colère de Gérald Darmanin, hier à l'Assemblée Nationale, le ministre de l'Intérieur s'est emporté face aux députés de l'opposition.
Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté.
Suite à la préparation du projet de loi sécurité globale, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est passé en mode choqué et déçu. Mais c'est pas le seul. Il y a Amnesty International qui alerte depuis des mois sur les dérives liberticides du gouvernement. Et Amnesty, c'est une organisation pourtant soutenue par Joueurs du Grenier, Jiraya ou Sardoche.
C'est pas l'extrême gauche, Amnesty, c'est des gens raisonnables.
Et il y a d'autres gens raisonnables qui commencent à dénoncer ce qui se passe en France. Les syndicats de journalistes déjà, mais aussi la presse étrangère. On a Politico, le Financial Times, le Washington Post, le New York Times.
De l'extérieur, le tableau est navrant. Et c'est pas juste nous qui sommes en mode
« Oh, nos libertés, état fasciste, gna 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 ».
Après, c'est vrai qu'on fait un peu ça d'habitude.
Non mais oui, mais là, c'est là, là, c'est pas que nous qui le disons, quoi, tout le monde le dit.
Avant, nous, on a alerté sur le discours fascisant, on a alerté sur l'omniprésence de ce discours dans l'espace médiatique, on a alerté sur les groupuscules d'extrême droite, mais cette année, et notamment avec l'arrivée de Darmanin à l'intérieur, tout s'accélère.
Les discours qui étaient portés par CNews ou Valeurs Actuelles jusque-là sont maintenant portés par des ministres en exercice.
Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université.
Ouais, puis y a pas que les discours. Derrière, il y a les lois et surtout, il y a une pratique du pouvoir.
C'est ça. Alors, comment on en est arrivé là?
Comment Macron, le centriste jeune et dynamique, le Obama européen quasiment, le candidat souriant et aimable de 2017, comment cet enfant chéri de la bourgeoisie progressiste et libérale a-t-il fini par devenir ce fossoyeur des libertés publiques n'hésitant pas à opérer un virage identitaire hallucinant que ne renieraient pas les pires populistes de l'extrême droite européenne?
Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est toute une séquence politique et historique qu'il faut analyser, une séquence qui s'étale sur au moins 5 ans.
C'est sous François Hollande qu'on voit déjà la République bourgeoise se raidir. Après les attentats de Charlie et du Bataclan, on est rentré dans un cycle répressif à base d'état d'urgence, de lois d'exception et de nouveaux pouvoirs accordés à la police. Une police qui était à l'époque applaudie.
Qu'est-ce que ça a été, Je suis Charlie, sinon un affect commun d'une intensité absolument extravagante? Dans le moment même, il y a toute une série de différenciations qui s'évanouissent. Alors ouais. Ça, c'est un cas d'affect commun surpuissant et qui écrase tous les affects communs des appartenances secondaires, de classe, de compétition.
Qui voudrait les écraser, s'agissant de Charlie, précisément. Il y a eu une espèce un devoir être Charlie qui s'est répandu partout, mais il y a plein d'endroits dans la société où le « je suis Charlie » ne prenait absolument pas et où il y avait des profs dans les écoles qui rencontraient des témoignages d'élèves,
Judith, c'est pas moi que tu vas raconter ça. Moi, je n'étais pas Charlie et je l'ai dit.
Il y a eu en 2015 près de 2000 perquisitions, plus ou moins arbitraires et qui n'ont pas servi à grand-chose dans la lutte contre le terrorisme, mais qui ont lancé un message message aux Français musulmans.
Puis il y a eu des gamins convoqués au commissariat, comme le petit Ahmed, de 8 ans, voilà, parce qu'ils n'étaient pas assez Charlie.
Mais à l'époque, donc, on applaudissait les flics, on embrassait un flic même. Se moquer des musulmans, c'était défendre la liberté d'expression. Le duo Valls-Hollande avait les coudées franches et ira même jusqu'à proposer la déchéance de nationalité. Une idée tièdement reçue à gauche, une gauche qui était déjà fragilisée par celles et ceux qu'on a appelés les frondeurs. Mais une gauche de gouvernement qui voyait dans le charlisme une bien belle occasion d'appeler à l'union nationale.
Donc ça, c'était en 2015, puis 2016 et la première loi travail.
Eh oui, c'était une loi de flexibilisation du marché du travail, d'inspiration macronienne, mais portée par une jeune ministre inconnue à l'époque et de nouveau inconnue aujourd'hui, Myriam El Khomri.
Et ce moment est intéressant pour deux raisons.
La réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille. Non, vaut mieux que ça.
D'abord, c'est une grosse mobilisation. Les forces de gauche traditionnelles, engourdies depuis l'élection de Hollande, se mobilisent largement. On retrouve dans les rues des jeunes, des profs, des syndicalistes, des fonctionnaires, bref, la clientèle traditionnelle de la gauche s'oppose frontalement à un gouvernement de gauche. Souvenez-vous de Nuit Debout, qui était déjà le signe d'un renouveau de la contestation portée par des intellectuels et des politiques, alimentée par des discours nouveaux venus de la gauche radicale et soutenue par une nouvelle génération de militants et militantes qui s'engagent dans leur premier mouvement social d'ampleur.
C'est un monde à part en plein Paris, sur la place de la République. Ici, on prétend tout réinventer.
Ah oui, puis toi, c'était le truc « on vaut mieux que ça », là, avec tes potes, « wesh wesh les amis », »,« Tatania Ventose », tout ça, quoi.
Donc, c'est une grosse mobilisation du peuple de gauche, ça c'est le premier point. Mais ce qui est également intéressant, le deuxième point, c'est de voir comment Valls a répondu à cette mobilisation du peuple de gauche.
Eh ben avec des flics partout, des flics tout le temps, des gardes à vue, des affrontements.
C'est ici que Jean-François, 21 ans, a été touché à l'œil, lors des manifestations contre la loi travail. Selon certains témoins, il a été blessé par les forces de l'ordre. L'étudiant en géographie a définitivement perdu la vision de son œil gauche. La préfecture reconnaît que les forces de l'ordre étaient équipées de lanceurs de balles de défense pour disperser des manifestants violents, comme le permet la loi.
La police démontra chaque soir les installations de Nuit Debout, comme ils démonteront plus tard les cabanes sur les ronds-points des Gilets jaunes. Une technique de maintien de l'ordre est expérimentée puis généralisée, la NAS. Une technique d'encerclement dont on sait aujourd'hui qu'elle crée davantage de tensions qu'elle n'en résout.
Mais voilà, il y a une contestation face à des lois perçues comme destructrices pour notre modèle social, et cette opposition dans la société, elle va être gérée par la violence.
Mais cette contestation face à un gouvernement socialiste, elle va laisser des traces.
Empêché de se représenter, Hollande jette l'éponge et c'est Macron qui prend la suite, avec tout de même, notons-le, un score impressionnant pour Jean-Luc Mélenchon. Faut remonter aux années 70 pour trouver un parti à la gauche du PS qui arrive à faire un résultat aussi significatif.
Et c'est pas rien, ça veut dire qu'une partie du corps social n'adhère plus au discours de la gauche néolibérale. De braves gens qui avaient gentiment voté Hollande en 2012 se mettent à espérer d'autres orientations, économiques notamment.
Mais Macron est passé sur un malentendu, presque. À l'époque, le candidat Macron se décrivait comme progressiste, ouvert. Souvenez-vous, il faisait le mec cool. Après quelques années avec Manuel Valls comme Premier ministre, même les musulmans ont cru qu'ils allaient pouvoir souffler un peu.
Et je crois que l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, c'est de confondre ce qu'est la laïcité avec un laïcisme. C'est-à-dire d'installer l'idée qu'au fond, il y aurait une forme de religion républicaine qui viendrait combattre un monothéisme, parce qu'il pose aujourd'hui problème selon eux. La République, au nom de la laïcité, n'a pas à exclure.
Pour vous dire le level, j'ai même trouvé le communiqué d'une orga musulmane qui disait « La logique voudrait que le mandat d'Emmanuel Macron soit enfin l'occasion d'une véritable lutte contre les racismes en général et l'islamophobie en particulier. »
Oh, et c'est qui l'organisation musulmane ?
C'est le CCIF.
Ah ouais. Bah ils sont un peu plantés. Mais on peut les comprendre, Macron se vendait comme un vrai libéral. Il était même prêt à discuter du passé colonial de la France. Écoutez ça, ça a très mal vieilli.
Le candidat à l'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron, a créé des remous après ses déclarations à la télévision algérienne un peu plus tôt cette semaine. Le fondateur du mouvement En Marche a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité.
Vous entendez cet islamo-gauchisme ?
Non mais Darmanin, il te met en garde à vue aujourd'hui, direct, si tu dis un truc comme ça.
Nous devrions nous auto-flageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit soudée, soit unie, soit fière de nos racines, de notre identité.
C'est pour ça qu'on va faire une petite chronologie des grandes étapes du mandat de Macron.
D'abord, Macron attaque. Loi Travail 2, ça passe. Il attaque les cheminots, ça passe. Il attaque les universités en introduisant la sélection avec Parcoursup, ça passe. Il démantèle Notre-Dame-des-Landes, ça passe.
Oui, mais il annule le projet d'aéroport.
Oui, justement, on est quand même un peu encore dans le « en même temps ». Un Macron qui lâche rien sur le programme néolibéral, mais qui est prêt à lâcher du lest de temps en temps.
Ça veut pas dire que les zadistes, les cheminots, les étudiants n'avaient pas résisté. Le 1er mai avait à cet égard été mémorable, hein. Vous vous souvenez de ces images, place de la Contrescarpe.
Regardez bien sa tête ! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre.
Ah non mais on a pas flouté là en fait. Faut demander à la préfecture si on a le droit de filmer les policiers.
Non mais là c'est pas des policiers, c'est Benalla, tu sais.
Donc les acteurs traditionnels du mouvement social ont été vaincus, ils ont reculé, notamment parce que leur résistance avait été anticipée.
Mais ce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, c'est Jojo le gilet jaune.
Ah bah ça, Jojo le gilet jaune, nous-mêmes on l'avait pas vu venir. Hein.
Et avec le mouvement des gilets jaunes, c'est une nouvelle composante du monde social qui rentre dans la bagarre. Des populations laborieuses, moins politisées que les syndicalistes ou les étudiants. Ces primo-militants sont surprenants, inventifs, déterminés et radicaux.
But why do you blame Macron? What exactly is he doing?
Because Macron's an idiot.
No, no, we shouldn't speak like that.
Oh, really? Did I say something stupid? Yes, he's an idiot. It's because of him that we're here.
C'est à cause de lui qu'on est là.
No, it's not only about Macron, it's the system.
Et les gilets jaunes, c'est une réponse à une politique précise qui a exploité, flexibilisé, précarisé, sans vergogne.
Ouais, d'autre côté, c'était des cadeaux fiscaux pour les riches, hein, l'ISF en tête, des symboles que les Gaulois réfractaires avaient très bien interprétés.
Macron!
Un nouveau front s'ouvre donc contre Macron, qui vient s'ajouter aux résistances des forces de gauche classiques.
Ah, et puis rajoutons aussi le mouvement climat qui est rentré dans la bagarre, porté par une jeunesse qui réclame la justice climatique et sociale. Ajoutons également la jeunesse des quartiers, dont les principales revendications ont gagné en puissance et en audience ces dernières années.
Ça fait beaucoup de front quand même. Hein.
Oui, et encore, j'ai pas encore parlé de la manif contre l'islamophobie, c'est intéressant aussi.
Dis donc, est-ce que tu serais pas sur le point de te lancer dans un long monologue en voix off qui va résumer et conclure notre propos ?
Précisément.
La séquence 2018-2019 est exceptionnelle. La France bouillonne, les colères s'additionnent, se rejoignent même. Et pour cause, elles se sont trouvées un point de convergence fort, la critique des violences policières. Et c'est logique. Sur chaque front, la seule réponse de Macron a été d'envoyer la police et de criminaliser l'adversaire. Chaque demande de la société, chaque inquiétude a été ignorée, méprisée et finalement balayée par la force. La police a fini par devenir un adversaire commun, de l'étudiant au gilet jaune, du militant des quartiers au lycéen, au syndicaliste et maintenant au journaliste.
Cette proposition de loi sécurité globale, elle touche les journalistes, mais également ceux qui sont là derrière, ceux qui ont été victimes des violences policières.
Conséquence de tout ceci, le flic n'est plus perçu comme le gardien de nos libertés, mais comme une menace. Il n'est plus celui qui nous protège contre les terroristes, il est celui qui nous déloge, nous matraque, nous agonie d'insultes et de gaz lacrymo. Certes, ce que fait Macron de sa police avait été expérimenté sous Hollande, mais pas à un tel niveau d'intensité et d'arrogance. À l'époque, le charlisme tenait bon. Aujourd'hui, c'est foutu. La presse nationale et internationale a fini par relayer ses inquiétudes. Alors Castaner a failli céder un petit peu de terrain. Macron, en vérité, s'est sans doute interrogé sur la question.
La police française, ce n'est pas la police américaine. Mais des questions légitimes se posaient. La méthode de la prise par le coup, dite de l'étranglement, sera abandonnée.
Et les flics, devenus un pouvoir dans le pouvoir, n'ont pas cédé. Ils ont demandé le droit d'étrangler, ils ont demandé l'impunité totale et ont eu gain de cause.
Gérald Darmanin devra maintenir la bonne entente avec les syndicats de police, primordial pour le ministre de l'Intérieur. Première mission donc, rassurer les forces de l'ordre, mise à mal par des accusations de violence et de racisme.
Macron a choisi. En choisissant comme ministre de l'Intérieur l'abject Darmanin, il nous signifie à tous qu'il ne négociera plus, qu'il gouvernera désormais comme ça, sans écouter qui que ce soit, en imaginant chaque jour de nouvelles amendes et de nouvelles lois contre les récalcitrants, alors même qu'il avait su, parfois, reculer. En abandonnant la hausse des prix des carburants, en acceptant une convention citoyenne sur le climat, il avait entretenu l'espoir d'un dialogue possible. Un espoir qui s'est évanoui tout à fait quand les demandes et les résistances se sont multipliées. Il y a eu plusieurs tournants, hein, la réforme des retraites et l'odieux 49-3 en pleine épidémie, la manifestation contre l'islamophobie ou celle contre les violences policières soigneusement contrées, en laissant libre cours à une rhétorique identitaire inquiétante portée par des ministres racistes comme Blanquer ou Darmanin.
Mais quand Jean Castex veut que la laïcité soit la valeur cardinale, le fer de lance de la cohésion de la société, pourquoi amener la laïcité sur ce terrain? On est tous français, non?
Ah ben ça n'a rien à voir avec la nationalité, on est bien d'accord.
Alors non, ce n'était pas le projet de base du macronisme, mais ce tournant autoritaire est aujourd'hui sa seule issue. Je pense que Macron aurait aimé, en effet, être perçu autrement, par la presse étrangère par exemple, c'est évident. Il aurait aimé être le champion européen de la défense des libertés et de l'état de droit face aux Hongrois ou aux Polonais, le champion de la démocratie face à Trump. Cette mue identitaire et autoritaire, ce n'était pas le plan, mais c'est nous qui l'avons acculé.
Sur le parcours parisien, la foule des manifestants est compacte.
Avec le succès de nos mobilisations, avec nos demandes démocratiques, sociales et citoyennes, nous l'avons forcé à se réinventer, à choisir son camp. Nous avons mis fin à l'imposture du en même temps.
Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Parce que j'en ai marre, je suis fatigué. Et je pense que c'est collectif, c'est des douleurs qui nous remontent. Et encore plus récemment avec ce qui s'est passé. Je pense que là, c'est une fenêtre un peu qui s'ouvre. pour qu'on change enfin les choses.
Macron, l'enfant chéri de l'élitisme à la française, de la bourgeoisie dominatrice et arrogante, des capitalistes sur deux et conquérants, cet enfant chéri a choisi comment il comptait gouverner. Sa seule boussole, c'est la domination, c'est l'ordre. Macron n'est ni un intellectuel, ni même un bon politique. C'est le produit de sa classe, d'un système injuste qui porte en lui des valeurs d'inégalité et de violence, violence sociale, patriarcale, coloniale, raciste, bref, ce que la France a fait de pire. Quand est menacé l'ordre économique, celui sur lequel reposent ces dominations, alors finit le temps des belles paroles, de la tolérance affichée. La valeur centrale de la bourgeoisie, ce n'est pas le cool, c'est le travail et l'ordre. Chacun a sa place. Le plus important, ça n'est pas la liberté, c'est l'ordre. Et tant pis pour le cool. La bourgeoisie s'est radicalisée, mais la France bouillonne. La guerre sociale a atteint un niveau d'intensité que notre génération n'avait pas encore connu. La situation a dégénéré et elle est inédite, explosive, dangereuse, on ne joue plus. Notre démocratie représentative était déjà minée par une défiance sourde des populations. La voilà ballottée par les crises sanitaires, climatiques, économiques et malmenée par un gouvernement irresponsable et fascisant. Le monde d'après, ce ne sera pas avec Macron et ses sbires. Aujourd'hui, il est au contraire urgent de faire advenir le monde d'après Macron. Le mouvement social a rarement été aussi puissant et créatif, et il n'est pas sûr qu'on ait le temps d'attendre 2022. Parce que si l'exécutif se raidit à ce point, c'est qu'il nous craint, et qu'il sait que sa domination est plus précaire que jamais. Comment expliquer sinon qu'à un moment où le pays est acculé par une épidémie, une crise économique d'une gravité sans précédent et par les ravages présents et à venir du réchauffement climatique, comment expliquer que la seule priorité de ce gouvernement réactionnaire semble être de mettre au pas les universités, la jeunesse, les musulmans ou les journalistes? La vérité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Alors ne les décevons pas.
Et donc, à lundi prochain. Pistolet.